Alors, on va peut-être commencer par faire un petit chant.
Alors, je vous propose de prendre le numéro 7. Appelez enfant de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute la lumière, béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
4. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés.
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Pour que nos vies soient toutes à lui, il nous a envoyé l'Esprit, il demeure en chacun de nous.
Soyons les témoins du règne qui vient, béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, ta fidélité dans l'Eucharistie. Depuis 2000 ans, tu restes au tabernacle et tu nous appelles, tu nous attends, tu nous désires. Voilà, envoie ton Esprit Saint sur nous, que nous puissions mieux comprendre ton amour, ta soif d'être aimé, que nous puissions y répondre en venant t'adorer.
Le 109.
Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,
je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen.
Bonsoir à chacun et chacune, merci d'être présents cet après-midi malgré le changement de dernière minute. Je vois que vous avez répondu nombreux. Alors pour vous rassurer tout de suite, comme d'habitude, l'enseignement sera enregistré et donc sera disponible rapidement sur le site des sanctuaires et peut-être même sur le site de la paroisse, on essaiera de le mettre également. Voilà, je vais laisser le père Florian Racine se présenter. Là, il prend du temps avec nous cet après-midi avant d'être présent et de prêcher à toutes les messes sur Paris le Monial au cours du week-end. Merci beaucoup, Père, pour votre venue.
Merci, Xavier. Voilà, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce changement de date, d'horaire. En fait, chaque année, j'aime bien m'isoler un petit peu dans un refuge. C'est l'hospice du Grand Saint-Bernard. Je ne sais pas si vous connaissez. Il faut monter 2 heures en ski de randonnée pour arriver à 2500 mètres. Et à cause de la tempête, voilà, il y avait trop de risques d'avalanche et tout était, on avait interdiction stricte de sortir. Voilà, donc c'est seulement ce matin où les risques étaient plus faibles, donc on a pu redescendre. Voilà, donc c'est tout ça qui a fait que, voilà, comme quoi on contrôle pas toujours tout dans la vie. Je sais qu'ici il y a eu des inondations. Peut-être que l'adoration nous aide à nous rappeler que c'est Dieu qui est le maître de nos existences. Voilà, et ce qu'on peut pas faire par nos propres forces ou nos propres plans, eh bien, c'est le Seigneur qui le réalise à sa manière. Alors, ça va le son ou non? Parce qu'il y a un petit écho, ça, voilà. Bon. Alors, donc, juste me présenter très rapidement. Donc, je suis le père Florian Racine, je suis prêtre du diocèse de Toulon. Ça fait 14 ans que j'ai été ordonné prêtre. Je suis curé de Sainte-Marie, de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. C'est à côté d'Aix-en-Provence. Et aussi, j'ai mis en place une petite communauté qui s'appelle une association cléricale, les missionnaires de la Sainte Eucharistie. On est 7 prêtres et on a pour mission d'aider des paroisses à lancer l'adoration prolongée, perpétuelle, jour et nuit. Et c'est vrai que on avait participé au lancement de l'adoration il y a, je ne sais pas combien d'années ça fait, il y avait déjà l'adoration de toute façon beaucoup. Ça fait peut-être 12, 13 ans que c'est d'une manière plus perpétuelle, c'est ça ou... Voilà, très bien. Alors, et on a donc 4 prêtres qui sont sur Saint-Maximin. Et donc, une fois par mois, on va dans une paroisse pour lancer l'adoration ou pour faire une petite mission de relance, un petit peu comme on fait ici, pour motiver les adorateurs. On fait ça donc à partir de Saint-Maximin sur la France un petit peu autour. On a un prêtre aussi qui met en place l'adoration perpétuelle en Espagne et en Italie. Il y a à peu près 50 et 50 lieux, 2 × 50. En France, il y a une petite centaine de lieux d'adoration perpétuelle. Alors, ce n'est pas toujours aussi perpétuel qu'à Paris le Monial, mais globalement, il y a quand même une bonne partie de la semaine. Et après, on a 4 autres prêtres de la communauté qui sont aux États-Unis, parce que là-bas, il y a plus de 1200 lieux d'adoration perpétuelle. Et il y a beaucoup de... Voilà, l'Église américaine est très adoratrice, même si ce n'est pas l'Église qu'on connaît habituellement. On pense souvent au mouvement évangélique et tout ça. Mais il y a aussi une Église très contemplative et très priante. Voilà, donc merci de prier pour notre mission, enfin pour que cette mission, c'est ce que Jésus nous a rappelé ici à Paray le Monial, qu'il est bien présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas une chose... c'est une personne, c'est un cœur qui nous aime, qui a soif d'être aimé en retour, et nous sommes appelés voilà, à répondre à son invitation. Alors, je ne vais pas trop parler du message de Paray le Monial, parce que vous connaissez certainement 1000 fois mieux que moi, mais je vais quand même rappeler donc ce qu'est l'adoration eucharistique, quelques-unes des grâces que l'on reçoit lorsqu'on vient prier devant le Saint-Sacrement, et toujours des petits conseils spirituels pour nous aider à adorer. Alors, en introduction, je fais une introduction un peu longue. J'aime bien rappeler 2 témoignages qui peuvent nous pousser à adorer. Il y a quelques mois, j'étais avec Monseigneur Bataille. Je ne sais pas si vous savez, c'est l'évêque de Saint-Étienne. Et il voulait absolument qu'on lance l'adoration perpétuelle dans son diocèse, et ça vient d'être lancé, et ça se passe à l'évêché. C'est un beau projet, à l'évêché, pour porter, pour... Et alors je lui ai demandé, mais pourquoi, Monseigneur, voulez-vous l'adoration perpétuelle? Et il me dit, pour 2 raisons, qui peuvent être des raisons pour lesquelles on vient prier devant le Saint-Sacrement. Il disait, pour demander des vocations religieuses, sacerdotales, et en même temps, pour que le diocèse soit plus missionnaire. Vous savez que Monseigneur Haillet, lorsqu'il était nommé à Bayonne, c'est une des premières actions qu'il a mis en place sur le diocèse, 2 lieux d'adoration perpétuelle à Bayonne et à Pau, et le but c'était vraiment de porter les vocations. Et il témoigne, aujourd'hui vous savez qu'il y a beaucoup de vocations dans le diocèse de Bayonne, et il dit que c'est entre autres, c'est toujours une alchimie de plusieurs réalités. Mais le fondement premier, comme disait Benoît XVI, l'adoration n'est pas un luxe, mais une priorité. Le fondement premier, c'est l'adoration de Dieu, nous mettre humblement à ses pieds pour lui demander les grâces et les vocations. Donc, vocation et mission, peut-être que ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles on va adorer, pour être mieux répondre à notre vocation à la sainteté pour nous, en même temps pour porter la mission de la paroisse, du diocèse, et voilà, pour être plus missionnaire, plus saint, hein, et plus missionnaire. Alors ça, c'était le témoignage de Monseigneur Bataille, et j'aimerais juste citer un petit paragraphe du cardinal Sarah, que vous connaissez certainement, celui qui est responsable de la liturgie au Vatican, et il disait, entre autres, on pourrait dire deux autres raisons pour lesquelles on peut venir prier devant le Saint-Sacrement. Alors c'est des termes assez forts, hein, comme le cardinal Sarah aime bien dire. Alors il disait ceci dans le cadre du colloque pour la famille, mais on peut le dire aussi dans le cadre de la prière, d'adoration pour l'Église et le monde. Il disait ceci, je le cite, « Un discernement théologique nous permet de voir à notre époque deux menaces inattendues, presque comme les deux bêtes de l'Apocalypse, situées sur deux pôles opposés. D'une part, l'idolâtrie de la liberté occidentale, et de l'autre, le fondamentalisme islamique. Laïcisme athée contre fanatisme religieux. Plusieurs indices nous permettent de percevoir la même origine démoniaque de ces deux mouvements. » Vous voyez, alors ça c'est cardinal Sarah qui exprime pour lui les grandes menaces par rapport à la famille, hein, la famille naturelle et puis aussi la famille spirituelle qui est l'Église. Ce laïcisme athée, ce fanatisme religieux qui peuvent nous pousser nous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement parce que ce sont des causes qui nous dépassent, hein, qui nous dépassent. Et si on reprend ce passage en Matthieu au chapitre 9, il y a ce père de famille qui a un enfant qui est possédé par un esprit. Vous savez, donc il demande aux disciples de Jésus de faire partir cet esprit mauvais. Et il est dit qu'ils n'y parviennent pas. Ensuite, il amène cet enfant à Jésus. Hein, Jésus chasse cet esprit mauvais et il dira, alors il y a deux évangiles. Un évangile qui dira ce type de démon, seule la prière peut le faire partir. Et un autre passage qui dit seule la prière et le jeûne peuvent le faire partir. Vous voyez ? Et donc je pense qu'une chapelle d'adoration permanente, comme vous faites ici à Paray-le-Monial, c'est reconnaître qu'il y a comme des démons, hein, des forces qui nous dépassent complètement. Hein, on peut penser à ces disciples qui essayaient de faire partir cet esprit du mal, à tous les grandes personnes de notre monde, aussi bien politiques ou je ne sais quoi, qui essaient de changer le monde par des plans, des projets, etc. Mais voilà, Jésus nous rappelle que certaines réalités du mal ne peuvent être chassées que par la prière. Alors prière et jeûne, hein, c'est vrai que lorsqu'on vient fidèlement prier devant le Saint-Sacrement, tout spécialement dans une heure qui peut nous être difficile, je pense aux heures de la nuit, c'est aussi un jeûne, hein, on se prive d'un peu de notre sommeil pour l'offrir au Seigneur. Donc c'est bon, voilà, je me disais c'était bon de rappeler que cette chapelle d'adoration perpétuelle, c'est toute une paroisse qui, ensemble, se met au pied du Seigneur pour demander au Seigneur de faire ce que l'homme ne pourra jamais faire par lui-même. Chasser ces grandes menaces qui veulent détruire la famille, qui veulent détruire l'Église, qui veulent détruire tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Hein, et donc, on a cette chance de pouvoir prier devant le Saint-Sacrement. Alors, je ne vais pas trop parler des mages de l'Épiphanie, parce que j'en parlerai pendant l'homélie ce week-end, mais j'aimerais commencer par le texte de la résurrection, lorsque Marie-Madeleine rencontre Jésus ressuscité. En fait, ce qu'elle va vivre, c'est ce que nous vivons à chaque messe et à chaque adoration. Vous savez, elle arrive, alors elle pleure. Marie-Madeleine pleure à trois reprises dans l'Évangile. Une fois, lorsqu'elle s'est perdue elle-même par le péché, et elle retrouve par la miséricorde sa propre dignité, hein, c'est le pardon, la miséricorde. Deuxième fois qu'elle pleure, c'est lorsqu'elle a perdu Lazare, son frère, hein, et elle le retrouve grâce à Jésus. Et troisième fois qu'elle pleure, c'est lorsqu'elle a perdu Jésus. Voilà, et elle va retrouver Jésus. Vous voyez, peut-être les trois bonnes raisons pour pleurer, ça nous arrive tous de pleurer, tantôt on pleure pour des mauvaises raisons. Et ici, Marie-Madeleine nous montre, si on s'est perdu à cause du péché, quelqu'un qui est tombé dans le péché, ça doit nous pousser à pleurer pleurer intérieurement pour que retrouver la grâce, la vie avec Jésus, l'amitié avec Jésus. Si on a perdu quelqu'un, évidemment, et à travers la communion des saints, on peut vivre cette communion avec ceux qui sont nos défunts, qui sont déjà dans la paix, hein, et bien sûr si on a perdu Jésus. Alors, Marie-Madeleine pleure, comme le monde pleure aussi, il ne connaît pas cet amour infini que Jésus a pour nous. Et puis soudain, elle est dans le jardin et elle rencontre celui qu'elle pense être le jardinier. Et il est dit qu'elle va se retourner physiquement. Il y a deux retournements. Le premier retournement est physique. Elle se retourne et elle rencontre cet homme pensant qu'elle s'arrête aux apparences. Vous voyez, en s'arrêtant aux apparences, elle pense que c'est le jardinier. Alors nous aussi, lorsqu'on vient à la messe ou devant le Saint-Sacrement, on va dire à la messe pour l'instant, eh bien, il faut se retourner physiquement, il faut sortir de chez soi. Hein. Mais si on s'arrête aux apparences, comme Marie-Madeleine, lorsque le prêtre élève l'hostie, on va dire c'est que du pain. C'est que du pain, si on s'arrête aux apparences. Et juste ensuite, dans l'Évangile, Jésus, qui était là, eh bien, va parler à Marie-Madeleine en l'appelant par son nom, hein, Marie. Et au moment où Jésus dit « Marie », elle reconnaît, elle dépasse les apparences et elle reconnaît Jésus qui est vraiment ici, présent devant elle. Et alors nous aussi, à la messe, on n'entend pas Jésus qui parle, qui prononce notre prénom tout fort, mais lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps », eh bien nous savons qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui emprunte la voix du prêtre, la personne du prêtre. Jésus agit dans la personne du prêtre. Et lorsqu'il dit « Ceci est mon corps », eh bien, ça veut vraiment dire « C'est moi ». Je suis là avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait. Hein, c'est vraiment le « C'est moi ». Me voici, je suis là. Voyez. Et donc, à ce moment-là, lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps », nous sommes appelés à dépasser les apparences, hein, et à discerner au-delà des apparences du pain, la présence du Christ ressuscité. Et donc Marie-Madeleine, dans l'Évangile, lorsqu'elle entend son prénom Marie, il est dit qu'elle se retourne, mais cette fois intérieurement. Vous voyez, c'est un retournement intérieur du cœur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il nous est dit qu'elle se jette aux pieds de Jésus, et elle va dire Rabouni, Rabouni. Et donc nous aussi, lorsque nous sommes à la messe, il ne suffit pas d'être physiquement présent, sinon on va juste voir du pain, hein, quand le prêtre élève l'hostie. Mais voilà, si on pose cet acte de foi au moment où on entend « Ceci est mon corps » à la consécration, eh bien on retourne notre cœur et au-delà des apparences, on reconnaît Jésus vraiment ressuscité, vraiment présent. Et comme Marie-Madeleine qui se jette aux pieds de Jésus, eh bien on se prosterne humblement à la messe, on adore le Christ qui est présent dans l'Eucharistie. Hein, il ne faut pas oublier que l'adoration eucharistique commence à la messe, hein, à trois reprises. Le prêtre élève bien haut la Sainte Hostie. Pourquoi? Hein, c'est pas pour faire de la gymnastique, hein, c'est juste pour qu'on puisse poser notre regard sur le Christ ressuscité, qu'on puisse poser cet acte de foi et reconnaître que Jésus est là. Donc trois fois, nous avons déjà, la liturgie nous invite à l'adoration, hein, au cœur de la Sainte Messe. Et alors ensuite, Marie-Madeleine, c'est très intéressant, elle dit Rabouni. Et Rabouni, il y a deux dimensions dans ce terme. Alors c'est mon maître, mon seigneur. Il y a à la fois la transcendance, le seigneur est là, elle se prosterne. Le premier commandement, hein, dans la Bible, tu adoreras le seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, etc. Et donc elle reconnaît son Dieu qui est là. Mais en même temps, à cette transcendance, elle rajoute ni, rabouni, mon, à moi. Vous voyez, c'est comme si elle rajoute cette familiarité, c'est-à-dire que c'est mon Jésus, vous voyez, il m'appartient, il est à moi. Hein, et en reprenant cette parole de Jésus qui dit « je ne vous appelle plus serviteur, esclave, mais ami hein, », ami, ça veut dire qu'il y a une égalité dans l'amour, on est au même niveau, c'est toute l'incarnation, Dieu qui se met au même niveau que nous pour qu'on puisse avoir eh bien, cette amitié réelle et profonde avec lui. Et donc vous voyez, pour Marie-Madeleine, il y a cette double dimension dans son adoration, à la fois la transcendance, le Dieu infiniment grand, le ressuscité, il est là, il a vaincu la mort, il est présent, il est là, il se tient debout, là, hein, il peut tout. Et en même temps, c'est pas une présence qui nous écrase, qui nous fait peur, mais c'est une présence qui stimule hein, nos sentiments, notre affection, notre amour. Et donc, c'est ce qu'on vit nous aussi dans l'adoration. Hein. Dans l'adoration, on reconnaît la transcendance du Verbe incarné. Hein, lorsqu'on voit cette nature hein, qui se déchaîne un petit peu de temps en temps, lorsqu'on regarde l'univers, hein, on voit la grandeur de cet univers et qu'on se dit que cet univers, c'est quoi par rapport à Dieu hein, c'est quoi un petit grain de sable dans sa main hein, le cosmos avec les milliards d'années-lumière. Et quand on se dit que ce Dieu infiniment grand, il choisit hein, celui que l'univers ne peut pas contenir, choisit de se contenir dans la toute petite hostie. Ça, c'est fou, hein, si on y réfléchit. On a les neurones qui disjonctent dans la tête. Hein, c'est pas possible que l'infiniment grand choisisse de se faire infiniment petit. Enfin, à notre niveau, hein, il vient jusqu'à nous et même plus bas encore que nous pour être toujours là pour nous relever. Alors donc, revenons à Marie-Madeleine. Donc, elle reconnaît, vous voyez, le Seigneur qui est là. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Jésus lui dit, maintenant, va annoncer la bonne nouvelle. Voilà, ne me retiens pas. Il y a ce mouvement. On ne peut pas non plus hein, posséder Jésus. Jésus est toujours devant nous. Il nous met toujours en chemin. Hein. Quand on pense qu'on a Jésus avec nous, oui, on a Jésus avec nous, mais en même temps, Jésus, il est en même temps devant nous et il nous pousse à avancer. Hein. Et Jésus lui dit, voilà, va annoncer. Hein. Et elle est la première à annoncer que Jésus est ressuscité. L'apôtre des apôtres. Et donc nous aussi, lorsqu'on a adoré Jésus dans l'Eucharistie, que l'on a reçu dans notre cœur à la communion, que l'on a adoré au Saint-Sacrement, eh bien Jésus nous envoie naturellement, ensuite, il nous dit « va annoncer hein, eh bien, cette bonne nouvelle, va vivre voilà, la charité hein, dans ses deux composantes, on peut dire le service hein, et l'annonce de la bonne nouvelle ». Et donc on peut dire que notre messe, hein, c'est... Enfin, les quelques aspects de la messe, vous voyez, qui sont contenus dans ce passage de la résurrection, eh bien, nous aussi, on les vit à chaque messe, à chaque adoration. Et ensuite, on est appelé à annoncer cet amour que l'on a rencontré dans l'Eucharistie. Alors, je me suis un peu étendu sur l'introduction, mais on a une heure, hein, c'est ça ? 4h30, 5h30. Bon, je vais sortir la montre parce que sinon... Oui, non, mais après, s'il y en a qui doivent partir, hein, ne vous... Voilà, mais je vais rester en une demi-heure. Après, il y aura des questions-réponses, si vous voulez. Alors, pour comprendre l'Eucharistie, hein, j'aime bien rappeler, il faut toujours regarder un crucifix. Alors, on a un crucifix là-bas, voilà. Hein, il faut comprendre le lien, c'est pour ça que sur l'autel, hein, il y a toujours un crucifix qui est là, soit sur l'autel, soit juste à côté, pour montrer que le mystère de l'Eucharistie, eh bien, ça nous renvoie vers le mystère de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection, ou c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la croix, sa mort et sa résurrection, est rendu présent sur l'autel à chaque messe. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait, sa victoire hein, sur la croix? Eh bien, cette victoire est double. C'était Benoît XVI qui le disait à Cologne, pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le thème, c'était « Nous sommes venus l'adorer ». Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait? Tout simplement, facile à dire, mais voilà. Il a pris sur lui le mal, la haine, le péché, hein, et il a pris le mal du monde entier, le péché de tous les hommes, de toutes les personnes, depuis le premier Adam et Ève jusqu'à la dernière personne qui sera sur cette terre, hein, et il a vaincu ce péché par son amour plus fort que le mal, hein, sa miséricorde. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. C'est-à-dire le pardon, eh bien, est plus fort, ce pardon se manifeste sur la croix, est plus fort que tout le péché du monde.